On est live sur Bac FM, il est 13h01. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce CDLP spécial cinéma. Vous le savez, habituellement le mercredi, c'est youpi, puisque nous recevons notre ami Michel Petit-Fontanel de l'Acné. Malheureusement, le programme de cette belle association qui diffuse du cinéma indépendant à Nevers est en pause estivale, alors je me suis dit qu'on ne pouvait pas tomber notre ami le cinéma. Et je dis on, puisque pour ce CDLP spécial, donc je suis avec un confrère, et non moi, collègue Antoine Charrière. Comment ça va ?
Bonjour à toutes et à tous, merci, ça va super avec un programme pareil, ça ne peut qu'aller.
On va donc vous parler des films à l'affiche en ce moment afin de vous donner quelques conseils sur les films diffusés dans nos salles obscures. Antoine, je te laisse la main.
Merci Maxime, et pour commencer, rien de mieux qu'un film qui parle de cinéma, mais aussi et surtout de monstres.
Tu as écrit un film de monstre ?
Si, comme Pig à Kaiju.
Pour faire ton monstre, que vas-tu utiliser ?
Ah, Donc tu as besoin de monstres pour ton film. Je connais les plus effrayants de tous. Mais il faut pas en avoir peur, ils sont très sympas. Essayez juste de pas être appétissant.
Septième film dans l'univers de Moi, Moche et Méchant, troisième opus qui leur est consacré, Des Mignons et des Monstres, est à l'affiche en ce début de juillet. Après Super Mario Galaxy le film et son énorme succès, Illumination poursuit l'année avec sa franchise phare et continue de bousculer le box-office. Le film prend place durant l'ère muet du cinéma, une période logique pour les mignons selon le scénariste Brian Lynch. Les débuts de l'âge d'or du cinéma constituent un environnement idéal, aussi idéal qu'intuitif pour nos petits amis jaunes qui s'y trouvaient contre toute attente totalement à leur aise et à leur place. Pour le tournage de leur film, entre deux bananas et crapouettes, les mignons partent à la recherche de monstres. Le film est réalisé par le français Pierre Coffin qui donne sa voix aux mignons depuis le premier volet, un grand connaisseur de l'univers donc. Ce film est pour lui très personnel puisqu'il est passionné depuis son plus jeune âge par les créatures et les effets spéciaux du cinéma classique. Les références fusent, les blagues aussi, ce nouveau volet est l'un des plus réussis selon 20 minutes. À préciser qu'en VO, George Lucas, le papa de Star Wars, sort de sa retraite pour prêter sa voix à l'un des personnages, se disant grand fan de cette saga. Et on continue d'ailleurs avec une autre saga, à la fois très ancienne et très récente.
Effectivement, je continue avec la grosse sortie de ce mercredi avec Supergirl.
Mon cousin et moi, on a une vision très différente de ce que c'est d'être un héros. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité.
Les brigands. Ils ont tout ravagé. Aux quatre coins de la galaxie. Et la galaxie doit être défendue.
Ce Supergirl arrive dans un contexte assez particulier. On est en pleine reconstruction de l'univers DC Comics après l'échec cuisant, disons-le, d'un premier univers relié un peu à la Marvel qui n'a pas convaincu, force à ceux qui se souviennent du douloureux Suicide Squad ou d'Aquaman 2. James Gunn, connu pour les Gardiens de la Galaxie, a repris le bébé avec son pote Peter Safran et parfois reprendre une franchise, c'est comme racheter une vieille baraque. Vaut mieux tout raser et repartir sur du neuf, ça coûte moins cher et franchement ça va plus vite. Le premier film de ce nouvel univers qui a pour ambition de concurrencer le MCU était Superman, sorti l'an passé. L'homme d'acier interprété par David Kouranzouet en avait convaincu plus de 90% d'opinions positives sur Rotten Tomatoes. Et c'est donc avec une superbe lancée qu'arrive Supergirl, suite directe donc de Superman, où l'on va suivre cette fois Kara Zor-El, la cousine du célèbre super-héros, qui va faire équipe à contre-cœur avec un improbable compagnon et s'engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice. C'est Greg Kilepsy, connu pour avoir réalisé Cruella, qui est à la manette pour ce second film du DCU. Les premières critiques ne sont pas très bonnes, mais bon, évidemment, on vous invite à faire votre avis par vous-même. Toi Antoine, tu es hypé par ce nouvel univers de Gunn, je crois que t'aimes bien Les Gardiens.
Tout à fait, Les Gardiens, pour moi, c'est l'un des meilleurs films Marvel, et puis James Gunn est très fort pour faire tout ce qui est film de super-héros en équipe. Donc on ne peut être qu'interloqué par ce nouvel univers. Et un film qui m'interloque moins, qui me hype moins pour le coup, c'est Disclosure Day, pour l'avoir vu. C'est le dernier en date de Steven Spielberg, grand génie d'Hollywood, à l'origine notamment de E.T., Jurassic Park ou encore Ready Player One pour les plus jeunes. Pour son traditionnel film de science-fiction de la décennie, il raconte l'histoire d'une révélation dans, justement, Disclosure Day. On y suit Daniel, en possession de preuves sur la vie extraterrestre. Parallèlement, Margaret Fairchild, une présentatrice météo, développe des capacités télépathiques et linguistiques mystérieuses en lien avec ces mêmes aliens. Le film est pour l'instant un échec, aussi bien commercial qu'un peu critique. Lopes dit que Steven Spielberg peine à se réinventer et livre un blockbuster presque morne. Et c'est pas faux, hein. Le scénario est ultra vide, le cœur du film sur les extraterrestres n'est pas du tout exploité, les relations entre personnages totalement ratées et avec aucune alchimie. Beaucoup de sujets comme la religion, l'empathie universelle ou le dilemme moral sont évoqués, un peu développés mais surtout survolés et rien n'aboutit. Mais comme le dit Écran Large, Disclosure Day peut davantage être apprécié sur la place qu'il occupe dans l'œuvre de Steven Spielberg que pour ses qualités intrinsèques. Avis donc aux fans de Steven Spielberg et aux autres nostalgiques des films SF à l'ancienne d'aller soutenir le film en salle, peut-être qu'il vous parlera. Sinon, il y a des chances de percevoir davantage un navet déjà ringard qui ne décolle pas vraiment au box-office.
On sent que t'as adoré.
Oui, bon...
Petit point rapide justement, box office, le cinéma d'horreur cartonne toujours, ça c'est pas une nouveauté, hein. Les films horrifiques trouvent toujours leur public dans l'Hexagone. Ce qui est nouveau en revanche, c'est que ces films sont de plus en plus réalisés par nos amis youtubeurs et youtubeuses. Après le succès du très bon Talk to Me, La Main en français, réalisé par les jumeaux Philippou, youtubeurs célèbres en Australie, ce sont les films Backrooms et Obsession qui cartonnent en salle, et c'est également réalisé par des vidéastes. Backrooms, d'abord réalisé par Kane Pearson, alias Kane Pixels sur YouTube, marche particulièrement bien. Même si vous n'êtes pas fort en maths comme moi, vous allez vite faire le calcul, hein. Le film a coûté 10 millions de dollars, il en a rapporté 330. Une belle affaire. Le gros coup de cœur que je voulais vous conseiller, c'est bien sûr ce Obsession qui a terrifié le monde entier, réalisé par l'excellent YouTuber Curry Barker, connu pour son duo comique avec son pote Cooper sur la chaîne That's a Bad Idea. Obsession, donc film d'horreur qui traite la thématique des incels, cartonne au box office, le film a coûté 750 000 dollars, il en a rapporté 370 millions. On a passé depuis un moment le million d'entrées en France. Si Barker continue sa lancée, il deviendra un très grand monsieur du cinéma horrifique. Antoine, c'est à toi.
Et après cette pépite du cinéma horrifique, passons à une pépite française de 2025 qui revient sur le grand écran cet été. Et on en a de la chance, hein. Ce film est un bijou d'animation réalisé par Hugo Bienvenu. Sous fond de voyage temporel, de fin du monde et de famille, le film est surprenant, émouvant, touchant et parfois drôle, c'est Arco. L'animation mélange un peu Ghibli et Michel Oslo dans un feeling global proche de Mia et le Migou, même si en vrai, c'est surtout un film super singulier et original.
T'es qui toi ? Migi ?
Je commençais sérieusement à m'inquiéter.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Aucune idée.
À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où ?
Le film Arco est officiellement sélectionné au Festival de Cannes 2025 dans la section séance spéciale. Il remporte ensuite le cristal du long métrage au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2025 toujours, et il est nommé dans toutes les grandes cérémonies du milieu et passe à deux doigts de l'Oscar du meilleur film d'animation, et il le méritait, bien plus que le sympatoche Zootopie 2. Il obtient tout de même le César du meilleur film d'animation et de la meilleure musique originale. J'ouvre les guillemets, l'époque dans laquelle nous vivons étant particulièrement incertaine, complexe et difficile à vivre, j'avais à l'inverse besoin d'un récit qui donnait de l'espoir, qui nous invitait à imaginer le monde, non pas de demain, qui semble déjà condamné, mais d'après-demain, un horizon désirable, possible, un monde dans lequel il ferait bon. Ces mots sont ceux d'Hugo Bienvenu, réalisateur du film, pour présenter justement son œuvre. Et le film transpire, une sorte de mélancolie semblable à celle de l'enfance, un mélange de peur et de fascination face à cette fin du monde, une irrésistible poésie d'espérance et de famille. Pour être vu dans les meilleures conditions, Arco est de nouveau à l'affiche, notamment au Ciné Mazarin le samedi 4 juillet à 16h30 et le lundi 6 à 14h. Animation française toujours, le film le plus fou, le plus libre et surtout le plus gai de cette année, c'est Jim Quinn.
Parfait à embrasser une fille.
Qu'est-ce qui m'arrive ?
Concert de Lady Gaga annulé et scène de panique dans le marais.
Ils arrivent tous les jours, de plus en plus nombreux. Des intérêts pour le culte du corps. L'apparition de fashion faux pas. Tu as contracté une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose.
Quoi ?
Tu vas devenir
hétérosexuel.
Et j'ai l'hétérose, docteur.
Aidez-moi, je vous en prie.
Vous connaissez lui, hein ? Sans lui, il m'est impossible de synthétiser la chloroquine.
La chloroquine ?
Le remède à l'hétérose.
Une nouvelle MST terrifiante touche les hommes gays, l'hétéros, les rendant petit à petit hétérosexuels. L'origine du projet de Jim Quinn remonte à cette simple blague il y a des années, puis le propos est devenu plus militant au vu de nombreux reculs de droits LGBT dans le monde et en Europe. Le film est réalisé par le tandem Marco Nguyen et Nicolas Hatan, en collaboration avec le studio Bobby Pills, qui a produit notamment la série Les Cassos. Le film est une satire de l'hétéronormativité et remet en perspective toutes les normes. Les retours sont unanimes, le film fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes. Libération parle d'un film drôle et survolté, Ouest France d'une œuvre provocante, drôle, didactique. Et effectivement, elle l'est didactique, puisqu'elle explique aussi le lore de l'univers gay en quelque sorte. Cet univers, ça parle de l'identité, des rapports de pouvoir, et c'est assez universel justement. Ça parle à tout le monde, mais avec légèreté et beaucoup d'humour. C'est d'autant plus une chance de le voir que le film a peiné à être financé et distribué au vu du sujet traité et du format dessin animé pour adultes. Il a reçu des subventions régionales, mais c'est surtout la RTBF en Belgique qui a joué un rôle décisif. Des cagnottes en ligne ont été lancées et ouvertes pour combler le reste. Le distributeur est The Jokers, qui lui permet à être projeté sur grand écran. Mais attention, si vous le ratez, puisqu'aucune chaîne de télévision française ni plateforme de streaming n'a accepté de le diffuser pour l'instant, comme quoi, il y a du chemin à faire. Il faut espérer que son succès convainc les plateformes justement de le proposer et surtout de créer et faciliter l'accès à plus d'œuvres du genre. Jim Quinn, c'est un film très généreux, des décors remplis de blagues et de références, des personnages magnifiquement écrits. C'est aussi, surtout, très drôle, émouvant et toujours en salle cette semaine. Il faut juste trouver une salle qui le projette.
Je voulais terminer ce CDLP. Ce CDLP, c'est dans les parages, spécial avec un détour chez Disney. Je vous préviens, je serai un peu moins critique qu'Antoine, je vais plus parler argent parce que j'adore le pognon. Un film Star Wars est en salle en ce moment, Mandalorian et Grogu, et verdict, ça attire pas les foules. Hein. C'est le plus gros bide de l'histoire pour la franchise Star Wars qui peine à trouver son public. 165 millions de dollars de budget, il en a rapporté 325 millions. Si on déduit le budget com plus les revenus des exploitants, le spin-off de Mando est un vrai four. Pour la critique, ça ne convainc pas non plus, seulement 60% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. La firme de Mickey relance donc les dés avec Toy Story 5.
Comment ?
Bonnie, le temps d'écran est terminé.
D'accord. Il faut que je te parle, machine.
Appelle-moi Lily.
Avec les jouets, on a passé tout l'été à aider Bonnie à se faire des amis.
Oui.
Et toi, t'es venue tout gâcher avec des...
Je vois.
Tu m'écoutes même pas.
J'écoute toujours tout. Regarde.
Avec les jouets, on a passé tout l'été à aider Bonnie à se faire des amis.
En espagnol.
Con los juguetes nos pasamos todo el verano.
Quoi?
Proms pour étranger dans le placard.
Woody.
Jessie, salut.
Est-ce que ça va aussi mal qu'on le dit pour les jouets?
On en voit de plus en plus abandonnés chaque jour.
On est fichus.
Pari réussi pour Pixar, c'est un raz-de-marée aux États-Unis ce Toy Story 5. Woody et Buzz atteignent seuls les 159 millions de dollars pour son premier week-end aux États-Unis, 300 millions de dollars dans le monde. C'est ni plus ni moins que le meilleur démarrage de l'année, le meilleur démarrage pour toute franchise Toy Story, deuxième meilleur démarrage pour un film d'animation. Côté critique, là encore un vrai succès, 92% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. La presse française est-elle un peu plus mitigée, 3,5 sur 5 en moyenne. 20 minutes parle d'un retour gagnant. Plein de tendresse, Combini évoque même, je cite, un récit moderne et rythmé qui plaira autant aux petits qu'aux grands, le tout avec une animation toujours plus époustouflante. C'est Le Monde qui râle un peu plus, le journal parle d'un film avec aucune ambivalence, séquence dramaturgie singulière, et les nouveaux personnages sont dispensables. Le fait est qu'avec un tel succès, Toy Story va sûrement continuer d'une façon ou d'une autre, pourquoi pas en spin-off. Ça te plairait, toi, Antoine?
Eh bien oui, pourquoi pas, des courts-métrages avaient déjà été faits pour enrichir l'univers, d'ailleurs ils sont dispo sur la plateforme de Disney+. Mais maintenant j'aimerais surtout que Pixar arrive à de nouveau proposer des créations originales qui sortent un peu du lot. Chères auditrices, chers auditeurs, amateurs d'horreur ou bien de fans d'animation familiale, drôle, mélancolique ou loufoque, de super-héroïne ou bien d'aventures galactiques et de science-fiction, en ce moment au cinéma, vous êtes servis. Mais avant de vous asseoir dans les fauteuils rouges, restez avec nous, je reçois dans un instant l'impérial Kikiristan, une compagnie des accros de Maru. À tout de suite sur BAC FM.